En direct du Salon de l'Auto de Montréal au Palais des Congrès, ça se poursuit jusqu'au 27 janvier. On est au 5e étage. Si vous êtes à proximité, venez nous serrer la pince. En fin d'émission, ça nous fera plaisir de pouvoir prendre le temps de discuter avec vous. À mes côtés, Benoît Charrette, Philippe Lagu, de l'annuel de l'automobile. Philippe qui est avec nous aussi, collaborateur sur les ondes du 98.5 également. Et un des porte-parole du Salon de l'Auto, le porte-parole techno du Salon de l'Auto.
Exact.
On en est rendu là, Denis Talbot.
Comment
salut,
ça
Denis.
Va? Ça va bien? Très... Content de te rencontrer, Mathieu.
Ben, pareillement, Denis, écoute, tantôt on en parlait. Puis les gars nous faisaient la référence, nous disaient, c'est l'évolution aussi. Mm-hmm. On est rendu là. Les véhicules, c'est plus juste quatre roues puis un moteur.
Quand tu dis que tu peux mettre ta voiture à jour comme on le fait avec un appareil intelligent, un téléphone, on est ailleurs, là.
Oui, ouais, absolument. Puis il y en a de plus en plus. Tesla était le premier à le faire.
Exactement.
Tu te réveilles un matin et tu as des nouvelles fonctions dans ton auto. Tu n'as rien fait. Là.
Exactement. Puis tu dis comment c'est fait. Bon, ils ont fait la mise à jour à distance. On peut même changer la puissance des moteurs. On peut faire de la batterie et tout ça.
Ah, oui.
On est rendu là. Quand ta voiture te parle, tu as l'impression de parler à ton Google Home ou à ton Alexa. Ça rajoute une page de plus dans cette histoire-là, de l'histoire de la voiture.
Mercedes a le système M-Box là, que moi j'ai essayé sur le modèle A.
Oui.
Puis, c'est quoi, tu dis, j'ai faim.
Bon, bon,
et Mercedes, j'ai faim. Il va te proposer restaurant dans les 5-10 kilomètres rayonnants autour de l'auto. Si tu n'as plus d'essence, tu dis, besoin d'essence. Il te fait même la route par le système de navigation pour te rendre jusqu'à la station d'essence où tu vas.
BM aussi fait ça.
Absolument.
Puis là, tu peux renommer ta voiture.
Il donnait un petit nom, là.
Oui, ouais, il l'appelait Marie. Salut, Marie.
Ouais.
Okay. Puis, tu n'es même pas obligé de dire « Hey, Marie » ou « Hey, BM ». Tu y vas directement et tu y jases. Ce que j'ai trouvé intéressant également, c'est la reconnaissance faciale du conducteur.
Ah oui?
Et ça... J'imagine que dans quelques années, on ne sera plus capable de voler de voiture parce que ma grosse face, c'est pas ton joli minois à toi. Alors donc, tu ne seras pas capable de voler ma voiture. Mais là, on n'est pas rendu là encore. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que si les yeux quittent la route, la voiture t'avertit, puis pas à peu près, bip, 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 regarde en avant. Si t'échappes un crayon dans le fond de la voiture ou ton téléphone, comme on a déjà vu historiquement au Québec, il y a des gens qui ont pogné le champ. Tu te penches pour aller chercher ton téléphone. Là, ça t'avertit une première fois. Deuxième fois, si t'es pas là, la voiture prend le contrôle, là. Elle conduit, puis elle va dire attention, là, t'sais.
Est-ce que tu considères, Denis, au niveau technologique, les constructeurs automobiles sont où? Est-ce que c'est des développeurs ou c'est des gens qui ramassent des technologies qui sont développées par d'autres pour les intégrer dans des lieux communs?
Clairement, on s'est inspiré de tout le phénomène des assistants vocaux là, pour la maison. On a mis ça dans la voiture. Mais moi, je trouve que ça devient de plus en plus intéressant parce que c'est développé dans des voitures qui coûtent extrêmement cher. Souvenez-vous des caméras de recul au début, quand on a vu ça dans les gros bolides super chers. Aujourd'hui, tout le monde en a. Ça va devenir mandataire.
C'est mandataire depuis 2018.
Voilà.
Mais on va chercher beaucoup de technologies maintenant à Silicon Valley.
Exact.
Et là, c'est ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que le pôle de l'automobile, du moins en Amérique du Nord, est en train de se déplacer de Détroit à la Silicon Valley en Californie. On est en train de passer
Et tous les changements qu'on envisage côté des constructeurs en ce moment, c'est pas pour se faire compétition entre eux. C'est pour faire compétition à Google, à Microsoft.
Exactement.
Qui ont tout ce qu'il faut pour faire une auto, à part un moteur puis une carrosserie. Parce que les Apple CarPlay, les Android Auto qui sont partout, c'est des systèmes développés par Google, par Apple, par Microsoft.
Quand j'ai rencontré Wozniak il y a quelques années à la Place des Arts, j'ai fait une conférence, j'animais une espèce de débat, et le projet de voiture n'est pas mort chez Apple.
Ah non, loin de
c'est
là.
C'est pas mort. Ils ont toute la technologie, ils ont tout ce qu'il faut. Et maintenant, ils ont l'expertise.
Non, mais c'est ça. Tout ce qui manque, c'est de trouver quelqu'un pour faire une carrosserie avec un moteur.
That's
puis,
bingo.
Ou de racheter Tesla.
Ou un autre constructeur qui a un petit peu de difficulté,
exactement,
comme Ford. Parce qu'ils ont assez de liquidité pour
comme
ça.
Comme Chrysler.
Pas.
Oui,
Chrysler. Non,
eux autres, l'argent n'est pas un problème. Il s'agit de voir par où on va passer pour y aller.
Exact.
Mais c'est des trucs qu'on va retrouver éventuellement dans les modèles d'entrée de gamme. Ce qu'on voit ici aujourd'hui, dans 2-3 ans, on va voir ça dans les modèles plus accessibles.
Aurais-tu pensé en début de carrière, trouver porte-parole du Salon de l'Auto?
Jamais. Honnêtement, je suis pas un gars je le dis souvent, je suis pas un gars de moteur comme les deux spécialistes qui sont là, qui sont allés à Détroit, qui ont vu un salon récemment qui était sur le déclin. J'aurais jamais cru ça, mais plus ça va, plus la technologie va occuper une place de choix. Bon, les voitures autonomes, sûrement, c'est sûrement sur la bouche de tout le monde en ce moment, mais ici au Québec, avec ce qu'on vit, imagine-toi avec des senseurs dans la tempête de neige de demain qui s'en vient,
on
n'ira pas loin.
Encore.
Loin,
on travaille avec
moi
les...
non plus.
Non, ben là, les compagnies en ce moment, travaille avec des satellites. Pour être capable de passer par-dessus les radars sonores et caméras qui fonctionnent à peu près pas. Même quand il y a une grosse pluie, ça fonctionne pas. Dans la neige, c'est épouvantable.
Yes.
Donc, avec la navigation par satellite, ben là, t'aurais pas cette ces empêchements-là ne deviendraient plus des obstacles.
Non, j'ai hâte de voir le coût d'abonnement, par exemple.
Oui, bien ça, ça va être une autre chose, oui.
Il y a le 5G qui s'en vient, intéressant également. On va s'en servir pour les voitures. C'est déjà implémenté au niveau hospitalier. Les échanges entre hôpitaux se font par le 5G. Mais un truc que je trouve intéressant également, c'est qu'on est en train de refaire le Turco en ce moment. Mais on n'a pas pensé, en tout cas, je n'ai pas entendu dire qu'on était pour prévoir des façons de guider les voitures de façon autonome. On ne va pas loin, on pense
On n'est pas là.
On n'est pas là du tout.
La technologie existe, mais tu sais, moi, je dis toujours, il faut faire une différence entre une voiture autonome et une voiture sans chauffeur.
Voilà.
Parce que la voiture autonome, elle existe. Moi, j'en ai essayé deux douzaines. Ouais. Mais la voiture sans chauffeur, là, il faut refaire les lois. Il faut repenser le trafic automobile. Il faut faire des systèmes de communication entre les voitures qui vont être sur la route.
Puis,
on embarque dans un autre domaine.
Et même dans le mobilier urbain, il faut prévoir des relais de satellite, des relais de Wi-Fi. Parce qu'on veut que les voitures se parlent. Mais ça prend une infrastructure pour faire parler les voitures. Et on n'est pas rendu là. Mais sur papier, c'est un beau projet.
Quand on dit que l'industrie automobile se métamorphose, c'est que même les constructeurs, en ce moment, ils savent pas où ça s'en va. On peut pas les accuser de manquer de vision. Ils ont aucune idée eux-mêmes où ça va aller, combien de temps ça va prendre pour ces réglementations aussi pour les voitures autonomes et les voitures sans conducteur. Alors, eux autres aussi, là, ils avancent à tâtons puis ils font de l'essai-erreur.
Juste au niveau des piles, t'sais, hydrogène ou électrique, bêta ou VHS, on est là-dedans encore une fois.
Puis même les piles, il y a des piles solides qui s'en viennent.
Exact.
On est des piles lithium-ion, mais on sait tous que le lithium, si on y va en grande échelle pour les voitures électriques, va finir par manquer de lithium. Alors, il y a moult recherches qui se font là-dessus.
Et beaucoup de questions sans réponse.
Oui. Denis Talbot, merci beaucoup d'être venu nous voir.
Plaisir, Mathieu.
Bon salon, salon de l'Auto de Montréal jusqu'au 27 janvier. Je poursuis la discussion avec Philippe Lagu. Tu peux rester avec nous, Denis, si tu veux. Et Benoît Charrette, concernant... Tantôt, j'ai parlé de vos coups de cœur.
Ouais.
Tu m'as parlé de Maserati, là, qui est en train d'ouvrir une concession Maserati quelque part autour de...
C'est quoi ton village?
Mariville que tu voulais ouvrir, peut-être?
Non, mais dans ton coin.
Whedon, ça serait de
Whedon.
Bonne
place. Passez par Whedon, vous m'en donnerez des nouvelles. Mais c'est... Il y a des absents, et on a parlé de Tesla qui n'est pas ici.
Oui, mais il n'y en a pas beaucoup cette année.
Il n'y en a pas beaucoup.
T'sais, ça, déjà, ça fait une grosse différence. Hein. On va mettre les choses dans le contexte.
Oui.
Là. Au Salon de Paris, en octobre, bon, d'abord, au Salon de Paris, hein, c'est un des salons les plus importants. Il y a eu une baisse d'achalandage de 25 %. C'est quand même pas rien.
C'est énorme.
Et il y avait 16 constructeurs qui étaient absents, puis beaucoup de généralistes là-dedans. Là. Ford n'était pas là, Fiat n'était pas là. Il manquait vraiment des gros joueurs. À Détroit, moi, j'en ai compté 12. Il y a 12 marques
qui
n'étaient pas à Détroit. À Montréal, ils sont presque tous là. Montréal, cette année, il y a un concessionnaire qui a décidé de ne pas venir. Et c'est ce concessionnaire-là et vend, entre autres, Aston Martin et Bentley.
Okay.
Donc, là, alors ça, ce sont deux absents qu'on a cette année à Montréal. Et on en a parlé tantôt, Tesla, ça, c'est une
Mais
décision,
Tesla n'est nulle part.
Alors,
Montréal n'est pas à l'exception à la règle, là, c'est comme tout le monde.
Mais sinon, à Montréal, tout le monde est là.
Ouais.
Dans les disparus. Parce qu'on a une espèce de, tu l'as dit, une métamorphose. Il y a des véhicules qui sont en train de changer. Il y a des modèles qui ont fait époque qui sont en train de disparaître.
Ouais.
Quel est le plus grand disparu, selon vous?
La familiale, ça, c'est...
Ouais. La familiale, la boîte manuelle.
Le station wagon.
Le station wagon, ouais. Effectivement. Le bon vieux station wagon, ouais. Et Benoît, ça a absolument raison.
Boîte
la boîte manuelle, là,
c'est ça.
Pourquoi la boîte manuelle?
Bien, d'abord, il y a moins d'intérêt. Je te fais un historique en 30 secondes. La boîte manuelle, autrefois, c'était la chose à acheter pour économiser du carburant parce que ça prenait moins d'essence qu'un modèle automatique.
Oui.
Ce n'est plus vrai depuis qu'on a commencé à avoir des boîtes automatiques à 6 rapports. Là, on est rendu à 10 chez certains constructeurs. Et surtout, on a inventé la boîte séquentielle. Et ça, la boîte séquentielle, qui est des palettes au volant, là, c'est une boîte manuelle, pas d'embrayage. Et ça, c'est devenu la norme chez Lamborghini, chez Ferrari, bien avant les autres. Et là, on est en train d'étendre ça partout dans l'industrie automobile.
Ça, c'est majeur, ce que Benoît vient de dire, parce que Benoît a fini en parlant de Lamborghini et de Ferrari. Une boîte manuelle, c'était comme indissociable d'une voiture sport. Et là, vous voyez, Ford vient de sortir... La Mustang Shelby, la plus puissante de son histoire.
Automatique.
700 chevaux, automatique. Et la Toyota Supra. Mm-hmm. la voiture sur laquelle il y a eu probablement le plus gros buzz des 6 derniers mois.
Absolument.
Et peut-être même la dernière année.
Je serais prêt à dire ça.
Ça, puis le Jeep Gladiator. Hein? Et la Supra, qui est une voiture sport, n'aura pas de boîte.
Ça, les fans de Mustang capotent, là, parce qu'une Mustang automatique, là, c'est un sacrilège.
Pas tant que ça, si elle n'est pas offerte du tout en version manuelle, là, on a un sacrilège, oui, effectivement.
Puis là, on a du ZG chez Toyota. J'ai eu la chance de parler avec l'ingénieur en chef du Supra à Détroit. Il dit que, parce qu'il faut comprendre que c'est une BMW, moteur et transmission BMW à 8 rapports.
Un partenariat entre les deux,
mais Toyota dit, on a laissé la porte ouverte à se développer nous-mêmes une boîte manuelle s'il y a de la demande. Alors, on n'a pas fermé la porte du côté de la Supra.
Il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais vous poser la question qui me frappe. Si on voyage un peu à travers le monde, on se rend compte comment il y a des diversités de véhicules, des types de véhicules qui se vendent en Europe, qui ne se vendent pas ici.
Ouais.
Même au Mexique, des types de véhicules qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est appelé à disparaître, ça, avec les défis que les constructeurs automobiles ont? Au lieu de faire 50 véhicules différents, d'en faire 10, puisque ce soit même les 10 mêmes partout?
Bien, ça, ils ont déjà commencé. Hein?
Oui,
Ford, quand Alan Mulally est arrivé chez Ford, Mulally, lui, avait mis sur pied un programme qui s'appelait Ford One. Et là, il a dit, là, ça va faire là, qu'on aille une Focus pour l'Amérique du Nord, puis une Focus différente pour l'Europe et tout ça. Là, tout le monde va avoir le même modèle.
Affaire.
Et dans la foulée de ça, ben, regardez la Mustang pour la première fois. Quand ils ont renouvelé la Mustang la dernière fois, je crois que c'était en 2014, ben là, ils ont fait un modèle pour tous les continents. Alors, pour la première fois, la Mustang est vendue partout sur la planète.
L'autre.
Puis, dans les grands disparus, je termine avec ça, je te laisse aller, Benoît, mais il y a aussi la berline. Hein? Ford qui a annoncé qu'il ne ferait plus d'automobile en Amérique du Nord.
À part la Mustang.
Juste des camionnettes
et
des VUS.
Là où est l'argent.
Moi, de mon côté, ce que je peux te dire, c'est qu'on travaille maintenant avec des plateformes communes. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir une grande variété de modèles, mais on économise en recherche et développement sur les plateformes. Donc, je prends l'exemple Volkswagen, la plateforme MQB. On fait de la Lupo à la Atlas avec littéralement la même plateforme qu'on adapte. Donc, on veut continuer à offrir de la variété parce que les demandes des marchés n'est pas la même. Les attentes des acheteurs en Europe et ceux de l'Amérique du Nord ne sont pas les mêmes. Par contre, avec des plateformes communes, on a simplement à habiller le véhicule différemment et on économise beaucoup à la recherche et en développement.
Philippe, tu seras un peu partout sur le plancher ici au Salon de l'Auto. Benoît, tu as ton kiosque l'annuel automobile.
Je m'en vais là, puis on peut venir nous voir. On a chacun notre site web, philippelagu.com, benoîtcharette.com. Alors, quand vous voulez de l'info, Philippe a des podcasts d'information. J'ai des essais routiers, des éphémérides. Alors, venez nous voir, on va vous renseigner.
Merci beaucoup, les gars, d'être venus nous voir.
Un plaisir.
Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci beaucoup au public également qui est là, à Yves Cléroux ici, à Frédéric Perron en studio, à François Arnois, Catherine Huet, Louise Chénier. Et on se retrouve demain à compter de 7 heures pour Weekend Extra. Bye-bye.